carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le mythe de Psyché a inspiré les artistes depuis l'Antiquité grâce au texte d'Apulée, un auteur de la Rome du IIe siècle après Jésus-Christ, à qui on doit les fameuses Les Métamorphoses, un récit connu également sous le nom de L'Âne d'Or, un grand texte, une sorte de premier roman, une source de la mythologie. Et L'Âne d'Or, dans son contenu, a été revisité par les artistes de la Renaissance qui se sont appropriés ces histoires, qui sont présentées dans ce récit d'aventure, à la fois tragique, violente, légère, mais aussi où le merveilleux et la magie ont une place centrale. Alors c'est bien connu, c'est ce fameux mythe de Psyché qui a, à partir de la Renaissance, connu à nouveau un autre succès iconographique très important. Alors cet univers et cette histoire d'amour se prêtent à l'art décoratif par excellence. Du 20 mai au 30 août 2009, une exposition d'art décoratif est justement organisée au château d'Azay-le-Rideau intitulée « Psyché au miroir d'Azay », accompagnée de concerts, de séances de cinéma qui sont autant de variations sur le mythe et l'histoire de Psyché et d'Eros, sur les lieux mêmes de ce site, magnifique, un château d'Azay-le-Rideau. Mais en plus, ce programme est relayé par 5 monuments en France, 5 châteaux, de France et de Navarre, qui en écho présentent et valorisent leurs trésors autour de Psyché. Citons le château de Chantilly, celui de Fontainebleau, celui de Pau et de Sully-sur-Loire, et à Paris, l'hôtel de Rouen-Soubise, qui accueille, comme on le sait, les archives nationales, mais qui vont donc nous montrer leurs trésors. Alors aujourd'hui, avec nous à Canal Académie, Nicole Garnier, qui est conservateur général du patrimoine chargé du musée Condé Château de Chantilly, qui est bien connu à Canal Académie, qui est venu plusieurs fois. Bonjour Nicole Garnier.
Bonjour.
Alors rappelons peut-être un peu, Nicole Garnier, ce mythe de Psyché, cette simple mortelle à l'exceptionnelle beauté qui est honorée comme une déesse et qui déclenche à son insu la jalousie de Vénus. Et la déesse ordonne à Eros, à Cupidon, d'aller la séduire, mais pour qu'elle tombe amoureuse d'un personnage ou qu'elle ait un mari très, très laid, ignoble, immonde. Mais que se passe-t-il vraiment, Nicole Garnier ?
Alors effectivement, Vénus va destiner à cette trop belle mortelle, fille d'un roi, il lui destine un monstre comme époux. Et évidemment, du haut de son nuage, quand Eros va apercevoir la trop belle Psyché, il va naturellement en tomber amoureux. D'où les histoires palpitantes et rebondissantes que vont vivre nos personnages. Alors Psyché va devoir être conduite à un rocher où elle devra être abandonnée pour être donc livrée au mari monstrueux que doit lui choisir Vénus selon l'oracle. Son père, le père de Psyché, a consulté un oracle et a su donc qu'elle devait épouser un mari monstrueux. Il se désole mais il doit accomplir la prédiction.
Il la conduit au rocher.
Donc on porte sur un brancard la malheureuse Psyché très attristée. Et puis rien de tout ça ne se passe. En fait, Eros va envoyer en grand secret un messager, Zéphyr. Et Zéphyr va transporter Psyché dans un monde merveilleux où va se passer une bonne partie de l'histoire que représentent donc les vitraux de Chantilly, on va le voir. Et donc dans ce monde merveilleux, Psyché va être accueillie dans un palais extraordinaire. Elle va être servie par des serviteurs et des servantes invisibles qui vont faire ses quatre volontés, qui vont lui servir des mets délicieux, qui vont donner pour elle des concerts extraordinaires. Et puis, la nuit, un époux mystérieux va lui rendre visite, va venir visiter sa couche, mais elle ne devra jamais le voir.
Elle ne doit pas lui demander qui il est.
Elle ne doit pas savoir qui il est. Alors évidemment, elle peut se demander s'il s'agit du monstre dont on lui a tant parlé, mais elle est conquise évidemment par le charme et la grâce du personnage qui lui rend visite la nuit. Et d'un long moment va se passer. Psyché, bien sûr, va s'interroger, les femmes sont curieuses sur l'identité de l'époux mystérieux. Et puis comme elle s'ennuie beaucoup malgré tout dans son palais avec ses serviteurs et ses servantes invisibles, eh bien, elle va demander à l'époux s'il accepte qu'elle revoie ses deux sœurs, car elle avait également deux sœurs dans le monde d'en bas, dans notre monde terrestre. Et après avoir refusé, eh bien, l'époux acceptera finalement la visite des deux sœurs, qui sont évidemment très jalouses quand elles vont découvrir le luxe du palais de l'amour, quand elles vont découvrir les conditions royales dans lesquelles vit Psyché leur sœur. Et donc elles vont la convaincre que forcément l'époux est le monstre et qu'il faut absolument le tuer. Et donc Psyché va se laisser convaincre. Et elles vont remettre donc à leur sœur une lampe à huile et un couteau donc, avec lequel elle est censée se débarrasser donc, de l'époux monstrueux qu'elle croit avoir épousé. Alors elle hésite beaucoup, Psyché. Et puis encore une fois, la curiosité des femmes est bien connue. Donc une nuit où l'époux est endormi, Psyché va allumer la lampe à huile. Auparavant, elle prend au pied du lit les objets qu'a abandonnés son mari. Et évidemment, c'est l'arc et les flèches de l'amour. Elle va d'ailleurs s'érafler au doigt. Elle va donc se blesser avec les flèches de l'amour. Et quiconque se blesse aux flèches de l'amour, eh bien, tombe éperdument amoureux de l'amour, en l'occurrence d'Eros. Alors après, elle allume sa lampe à huile pour découvrir ce qu'elle suppose être un monstre. Elle découvre évidemment le plus beau jeune homme qui soit.
Et l'histoire n'est pas finie.
On est qu'au milieu de l'histoire, voilà, à ce stade. Et donc, sitôt la lumière faite, sitôt la goutte d'huile tombant sur l'épaule de l'amour, eh bien, il s'éveille. Il se voit démasqué par Psyché et aussitôt il s'enfuit par la fenêtre, cependant que Psyché se jette à sa suite, essayant de l'attraper par la cheville pour empêcher sa fuite. Las, le voici parti. Donc ici commencent en fait les épreuves de Psyché. L'amour, blessé donc par la goutte d'huile brûlante, va se réfugier auprès de sa mère, qui l'attrape beaucoup, qui le réprimande, qui lui reproche de n'avoir pas suivi les conseils, de ne pas avoir livré Psyché à un mari monstrueux qui l'aurait dévoré. Et donc, on va envoyer à la suite de Psyché qui erre sur la Terre à la recherche de l'amour, on va envoyer différentes épreuves donc, qui vont être subies par cette jeune femme qui finira par se rendre en fait à Vénus. Alors, parmi les épreuves terribles que va lui imposer Vénus, il y aura entre autres de trier en une journée un immense tas de graines. Évidemment, la pauvre Psyché se désole. Il est impossible de trier toutes ces graines en une journée, mais elle va trouver.
Elle va être aidée à chaque
fois. À chaque fois, elle va avoir évidemment des aides surnaturelles. Et là, pour l'épreuve du tas de graines, ça va être des petites fourmis qui vont trier les graines pour elle. Et dans la journée, le travail sera accompli. Vénus sera abasourdie de la rapidité, de l'efficacité, de la promptitude de Psyché. Donc elle va rajouter une autre épreuve. Il y a des moutons, paraît-il, très méchants. Le propre du mouton n'est pas d'être agressif, comme on sait. Mais apparemment, dans le panthéon gréco-romain, ils le sont. Donc il y a des moutons très méchants qui ont une laine à la toison d'or. Et donc elle envoie Psyché quérir quelques mèches de la toison d'or de ces moutons féroces. Alors là encore, Psyché se désespère, elle s'apprête même à se jeter dans la rivière, à se suicider. Quand le roseau va lui glisser à l'oreille un conseil, les moutons sont tout à fait calmes. Si on les prend à l'heure de la sieste, il faut s'approcher d'eux et quelques flocons de leur toison est accroché donc sur les buissons qui environnent le troupeau. Alors elle va se glisser, récupérer un peu de la laine de la toison d'or. Deuxième épreuve, elle triomphe. Vénus est de plus en plus abasourdie de son succès. Alors on va lui confier une épreuve qui doit être décisive. Elle doit aller dans les enfers, elle doit se rendre auprès de Proserpine, donc la déesse des enfers, Perséphone chez les Grecs, et elle doit ramener de chez Perséphone eh bien, une boîte avec un baume merveilleux qui doit être à l'intérieur. Alors là, évidemment, Psyché sait qu'elle est condamnée, car personne, au grand jamais, n'est revenu des enfers. Et là encore, elle va avoir de l'aide. Alors elle s'approche d'une tour, elle compte se défenestrer du haut de la tour, et cette tour qui se transforme en une jeune femme va lui parler et lui donner, là encore, quelques conseils magiques. Il lui explique comment amadouer le gardien des enfers, le terrible Cerbère, le monstre aux trois têtes, en apportant un petit gâteau qu'il faut lui donner quand on arrive, et puis un autre petit gâteau quand on veut repartir des enfers. Surtout ne pas s'adresser à l'ânier qui va demander de l'aide pour ramasser tous les objets qu'il a laissés tomber. Bon, donc Psyché va écouter tous ces messages, toutes ces consignes bien précises, et puis elle va en faire bon usage, elle pourra donc accéder jusqu'à Proserpine, à Perséphone, emporter donc le vase que lui remet la déesse des enfers, et le ramener donc sur la terre. Malheureusement, elle va être une deuxième fois victime de sa curiosité, car elle va vouloir regarder ce qu'il y a dans le vase que lui a remis Proserpine. Et là, malheureusement, c'est un baume mortel, un baume létal qui s'échappe du vase, et elle tombe dans un sommeil profond, dans un coma, dirait-on aujourd'hui. Fort heureusement, son époux, Eros, qui est très amoureux d'elle, arrive à ce moment-là, et donc va la sortir de ce sommeil fatal. Il va donc l'éveiller, il va aller supplier Jupiter. Jupiter enverra en fait Mercure, le messager des dieux, qui va venir chercher Psyché, qui va donc la porter dans ses bras jusqu'au Panthéon, jusqu'à l'Olympe, où sont les dieux du Panthéon gréco-romain. Et là, un grand banquet sera donné, enfin, pour les noces de Psyché et d'Eros.
Donc c'est cette... Elle est rang de déesse.
Alors à partir de là, elle va, oui, acquérir l'immortalité. Donc en fait, c'est cette quête de l'âme humaine, puisqu'en fait, Psyché, en grec, psyché, ça veut dire âme ou papillon. Effectivement, les anciens représentaient Psyché sous les traits d'un petit papillon pour évoquer l'âme humaine, par exemple, s'échappant de la bouche des défunts. Et bien Psyché, c'est toute la quête de l'âme humaine, en fait, qui cherche à acquérir l'immortalité. N'oublions pas que le roman d'Apulée a été transcrit au IIe siècle de notre ère, donc à une époque où le christianisme était déjà naissant, était déjà bien représenté dans le monde romain. Et donc, il y a aussi une interprétation chrétienne qui peut être donnée de ce mythe de Psyché. Alors, c'est un mythe qui a traversé les siècles, hein, puisqu'on le trouve depuis la haute antiquité grecque, on le trouve bien sûr chez les Romains, et puis on le trouvera peut-être à son apogée en Italie au XVIe siècle, à la Renaissance. C'est là où le mythe fera l'objet de représentations artistiques avec les plus grands artistes de la Renaissance, comme Raphaël, Perino del Vaga, d'autres artistes qui vont donc emmener en France des traductions, notamment sous la forme de gravures. Et donc, ce sera l'origine des figurations que nous avons aujourd'hui en France.
Nicole Garnier, le musée Condé de Chantilly organise une exposition « Le mythe de Psyché » du 29 mai au 31 août 2009. Une exposition qui explicite et qui présente les œuvres en rapport avec le mythe de Psyché, les œuvres présentes à Chantilly. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, outre la collection de dessins, de peintures, dans le musée lui-même, dans le château lui-même, il y a une grande galerie de vitraux, baptisée la galerie Psyché, justement. Enfin, Nicole Garnier, d'abord peut-être allez-nous nous présenter cette galerie du château de Chantilly qui porte depuis longtemps le nom de la galerie Psyché. Vous en avez parlé au début de l'émission. Que les visiteurs du château et des expositions connaissent peut-être, justement, c'est une pièce tout en longueur où la lumière nous parvient par des vitraux qui sont très clairs. Et on va peut-être commencer par évoquer ces vitraux. Et puis aussi, qui était ce personnage dans l'histoire du château de Chantilly ?
Eh bien, de Montmorency, effectivement, c'est le premier constructeur du château de Chantilly. Il y avait une vieille forteresse du Moyen-Âge qui était due aux Orgemont. Et Anne de Montmorency, donc connétable de France, compagnon d'armes de François Ier, grand prince mécène, va faire construire à Chantilly un petit palais de la Renaissance en contrebas de la vieille forteresse médiévale. Ce palais, il a un double, c'est le château des Coins, notre musée national de la Renaissance. Et Anne de Montmorency, qui a plusieurs hôtels particuliers à Paris, qui a des châteaux dans toute la France, a ces deux châteaux, et Coins, 20 km de Paris aujourd'hui, Chantilly, 42 km, il va de l'un à l'autre. Et il commande pour son château des Coins, qui construit à partir de 1538 par le même architecte, c'est Jean Bulland qui construit les deux édifices, il va commander toute une série de vitraux sur le thème de Psyché. Le château des Coins, c'est un château quadrangulaire, il y a une aile qui est habitée par le connétable et son épouse, Madeleine de Savoie, une autre aile sur la droite qui est habitée par le roi, Henri II, son épouse, Catherine de Médicis, et quelquefois Catherine de Médicis sera remplacée bien sûr par Diane de Poitiers, on le sait. Et donc ces deux ailes sont réunies entre elles par un bâtiment, une aile centrale, qui est une galerie où donc l'on devise, où l'on prend des repas, où l'on peut danser. C'est vraiment la galerie de réception. Et le connétable, pour décorer cette galerie, choisit de traiter du mythe de Psyché, qui est donc un thème extrêmement à la mode au milieu du XVIe siècle. On est entre 1542 et 1544 quand les vitraux vont être réalisés. Donc toutes les fenêtres de cette galerie, qui fait donc un tiers de la longueur du château des Coins, cette galerie va être ornée de croisées, avec des vitraux donc en grisaille, c'est-à-dire de couleurs très monochromes. Il y a juste une petite touche de jaune sur les chevelures, sur les objets dorés, mais tout le reste est peint dans une monochromie de gris qui est tout à fait magnifique.
Que les auditeurs ne se méprennent pas, il ne s'agit pas des vitraux de Chartres, mais ce sont des vitraux justement dans une même teinte.
Comme oui, monochrome. Donc qui va des gris jusqu'au brun, oui, et qui permettent d'ailleurs d'entreapercevoir les jardins à l'extérieur. Donc ces vitraux ont fait l'objet d'une campagne, donc d'une commande entre 1542 et 1544. Ils vont être mis en place dans la galerie de Psyché, donc l'aile centrale du château des Coins, où ils demeureront en fait jusqu'à la Révolution. Et puis à la Révolution française... Et
il a peut-être fallu les protéger.
Il a fallu les protéger. Les experts donc, de la commission des monuments se rendent compte donc, de la fragilité bien sûr de ces vitraux précieux. Ils vont donc les faire déposer, les faire transporter à l'hôtel de Nesle, quelque part dans des lieux qui sont exactement ceux de l'Institut aujourd'hui, sur les quais de la Seine, face au Louvre. Et ensuite, Alexandre Lenoir, qui est le conservateur du Musée des Monuments français, va en 1796 réclamer ces vitraux et demander qu'on les place dans son Musée des Monuments français, donc un musée de sculpture où sont rassemblés tous les objets d'art en fait, provenant des biens d'émigrés, donc de la famille royale, des grandes familles princières, des familles nobles qui ont quitté la France. Donc c'est une manière de protéger ces trésors de l'art français. Donc les vitraux vont être présentés après la Révolution et jusqu'à la Restauration dans ce musée des monuments français. Ensuite, ils seront rendus aux familles propriétaires des bâtiments d'où ils venaient. Alors évidemment, Écouen a appartenu après les Montmorency à la famille de Condé. La famille de Condé lègue en 1830 son château de Chantilly à Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui est donc le donateur de Chantilly à l'Institut de France. Et c'est en 1830, donc ce petit duc d'Aumale, qui n'a que 8 ans, qui va hériter, en fait, en même temps que de Chantilly, des vitraux de Psyché qui sont alors en caisse. Et très jeune, dès l'âge de 25 ans, le duc d'Aumale va avoir l'idée de faire construire une galerie, d'avoir un emplacement pour installer les vitraux qui viennent d'Écouen. Précisons que le château d'Écouen, lui, n'est plus un établissement muséographique, n'est plus un château d'habitation, puisque les Condés ont disposé dans leur testament que ce bâtiment servirait donc à créer un pensionnat, un internat pour les jeunes gens des familles immigrées. Donc il n'est pas question que les vitraux retournent à Écouen, ils font partie de l'héritage du duc d'Aumale, et le duc d'Aumale donc va proposer à plusieurs architectes une sorte de concours pour créer une galerie dans le château de Chantilly où on va installer les vitraux de Psyché. Alors il y a un artiste célèbre qui concourt pour ce projet, c'est Eugène Lamy, le peintre romantique que l'on sait, qui par ailleurs a décoré l'appartement privé du duc d'Aumale à Chantilly, qu'on peut toujours visiter, hein, ça fait partie des circuits de visite que nous proposons aux visiteurs qui se rendent au château. Et Lamy va faire un projet alors qui est d'inspiration très médiévale, mais dans les croquis préparatoires qu'il nous a laissés, que nous exposons aujourd'hui à Chantilly, on entreaperçoit donc ce que pourrait être la présentation des vitraux de Psyché. Et puis le duc d'Aumale va préférer à ce projet de Lamy. Le projet qui sera effectivement réalisé, c'est celui de l'architecte ordinaire de Chantilly, qui s'appelle Félix Duban. Et c'est Duban, effectivement, qui va réaliser une galerie tout en bois, qui va surajouter au château Renaissance, bâti par Anne de Montmorency, l'aile 16e. C'était évidemment tout à fait cohérent comme emplacement et comme architecture. Et donc, sur cette galerie de bois, qui existe toujours, on va pouvoir implanter 28 des 44 vitraux qui viennent d'Écouen. Alors c'est encore trop peu, me direz-vous, et c'est bien ce que pense le duc d'Aumale, puisqu'après la révolution de 48, lorsqu'il devra partir en Angleterre avec l'exil, qui va le frapper en même temps que son père, le roi Louis-Philippe, sa mère, la reine Marie-Amélie et toute la famille royale, il ne reviendra en France qu'en 1871, et lorsqu'il rentre en France, lorsqu'il reconstruit le grand château de Chantilly pour installer ses collections d'objets d'art, qui sont devenues énormes à ce moment-là, parce que pendant cet exil anglais, il est devenu un collectionneur de livres, de dessins, de tableaux. Donc c'est un musée qu'il va reconstruire le duc d'Aumale à son retour d'exil.
Il le sait.
Il le sait, et il va évidemment réserver une place de choix pour les vitraux d'Écouen. Et cette fois-ci, ce n'est pas 28 vitraux sur 44 qu'on va mettre en place, c'est la totalité. Donc il commande à son nouvel architecte, Duban est mort entre-temps, en 1870, son nouvel architecte c'est Honoré Daumet. Il lui commande un espace assez vaste, à un endroit d'ailleurs où se trouvait une galerie ancienne, dans le château de Chantilly. Il lui commande un espace pour placer ses 44 verrières. Donc c'est ce qui va être fait et il va restaurer aussi les vitraux. Il va les envoyer donc hors du château auprès de restaurateurs qui vont remettre un petit peu en ordre ce qui avait été, on le suppose, à la fois dégradé par une tempête que la galerie Duban avait subie en 1847, restauré en partie à la Manufacture Royale de Sèvres, puis ensuite les vitraux étaient partis en Angleterre, avaient été exposés en partie.
Et puis récemment, ils ont aussi fait l'objet de campagnes de restauration.
À une date tout à fait récente, c'est-à-dire en 2005, la Fondation Gaz de France nous a aidés à restaurer les vitraux de Chantilly, ce soit d'ailleurs les très beaux vitraux de Psyché qui ont été entièrement restaurés à cette occasion, ou également les autres vitraux provenant d'Écouen et du connétable Anne de Montmorency qui sont dans la chapelle, entre autres les verrières présentant les fils du connétable, les filles du connétable et deux très belles verrières montrant la circoncision et la présentation au temple et la nativité du Christ.
Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité, la singularité de ces vitraux, de cet ensemble ? C'est rare de posséder un ensemble pareil du XVIe siècle.
C'est unique en France.
C'est
unique en France. C'est le seul cycle complet qui soit conservé sous forme de vitrail. Alors, il faut bien se figurer qu'au XVIe siècle, le mythe de Psyché, c'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Le récit d'Apulée, qui est du IIe siècle après notre ère, était peu connu au Moyen-Âge. Il y a eu très peu de manuscrits qui l'ont divulgué. En revanche, il va être imprimé en Italie en 1469. À partir de ce moment-là, le texte va être connu et les plus grands artistes vont s'attacher à représenter le cycle complet. Le plus connu d'entre eux, c'est celui que Raphaël va traiter à la Farnésine pour le banquier Agostino Chigi. À partir de là, les différents élèves de Raphaël, Perino del Vaga à Mantoue, au Palazzo Te, va faire lui aussi un cycle sur Psyché. Il s'agit de Jules Romain, j'ai dit Perino del Vaga.
Oui,
del Vaga, lui, va travailler au contraire pour les appartements du pape dans le château Saint-Ange, hein, ce qui était l'ancien mausolée de l'empereur Adrien. Donc Perino del Vaga, Jules Romain à Mantoue vont chacun réaliser des cycles peints dans le style de Raphaël. Et ce décor va être à la mode, au point qu'un artiste, un graveur du temps, alors dont on ignore l'identité, mais qui signe d'un dé, d'un petit cube, la plupart de ses gravures, alors on l'appelle le maître au dé, sans savoir exactement qui il est, va graver une série de 32 planches sur le thème de Psyché, avec des légendes en italien, des vers italiens, qui vont être importés en France. Et c'est à partir de
que
la France va connaître le mythe de Psyché. Et nos vitraux, les vitraux de Chantilly, les vitraux d'Écouen, viennent directement des gravures du maître Audet. Sauf qu'il y en a un peu plus grand nombre, parce que le maître Audet avait gravé 32 planches, et nous avons 44 vitraux. Donc certaines planches en gravure ont été dédoublées. D'autres sont de pure création du maître verrier de l'école de Fontainebleau, qui intervient, et appartiennent vraiment au style du XVIe siècle français. Entre autres, nous avons deux scènes de toilette, Psyché au bain, Psyché à la toilette parfumant ses cheveux,
qui sont des compositions extraordinaires, qui ne figurent pas dans les gravures italiennes, mais qui sont une pure invention française. Et là, on reconnaît vraiment l'esprit français, l'esprit de Fontainebleau, l'esprit des artistes qui gravitaient autour du connétable.
Et c'est un exemple d'art profane.
C'est un exemple d'art profane et c'est très très rare dans le vitrail, parce que la plupart de ces vitraux profanes, ils ont tous été détruits. Et on ne connaît pas d'autres exemples de l'histoire complète dans l'art du vitrail. Alors il y a eu des cycles, notamment dans la tapisserie. Probablement, le connétable Anne de Montmorency a-t-il lui-même commandé des tapisseries sur le mythe de Psyché. Nous avons d'ailleurs au château, et nous l'exposons actuellement à Chantilly, un manuscrit qui nous parle d'une tapisserie qui aurait été commandée par le connétable.
Nicole Garnier, est-ce que vous pouvez nous décrire en particulier le vitrail qui s'appelle « Psyché découvre son époux » qui est justement dans cette fameuse galerie. Très beau.
C'est la scène centrale fait de l'histoire. C'est le moment où Psyché, donc, piqué par la curiosité et sur les conseils pernicieux et jaloux de ses sœurs,
qui sont représentées derrière.
Qui sont représentées dans d'autres vitraux qui sont dans les scènes précédentes. Et donc ici, dans ce vitrail, en fait, il y a trois images qui nous racontent l'histoire de la curiosité, l'épisode fatal. Donc sur la droite, on voit Psyché qui touche le carquois et les flèches de l'amour. D'accord. Elle va donc s'érafler, elle va donc tomber amoureuse de l'amour. Et puis au centre de la composition, eh bien, c'est la scène qui va être le début des soucis, des ennuis de Psyché. C'est le moment donc, où elle va allumer la lampe à huile. Elle a un couteau à la main, elle s'apprête à découvrir un monstre. Elle va découvrir un très beau jeune homme, un très bel adolescent. Donc elle reste saisie de stupeur. Et c'est le moment où la goutte d'huile s'échappe de la lampe à huile et va malheureusement frapper l'épaule de l'amour qui va s'éveiller, trouver surpris et qui s'enfuit. Donc sur la gauche, c'est la troisième scène où il s'échappe par la fenêtre, elle le saisit par la cheville pour essayer de le garder près de lui.
C'est un petit peu comme une bande dessinée sur la même image presque là. Au centre, la scène principale et puis effectivement sur le côté, la suite du récit en images.
Alors là, c'est tiré directement de la gravure du maître Audet, de la gravure italienne de la Renaissance. Alors, qui aurait été faite peut-être d'après des dessins de Raphaël, disait-on autrefois, du moins disait Vasari au XVIe siècle, le grand biographe des artistes italiens de la Renaissance. Bon, on pense aujourd'hui qu'il s'agit plutôt de dessins de Michel Coxy, donc qui est un artiste flamand qui travaillait en Italie, en même temps que Raphaël, et qui aurait été gravé ensuite par le maître Audet et par Agostino Veneziano. Ils ont été deux à réaliser cette suite de gravures. Sur les 32 planches, il y en a donc 28 qui sont du maître Audet et 4 qui sont d'Agostino Veneziano.
Oh, il y a une grande importance accordée quand même au décor dans ce vitrail. Les personnages sont au centre.
Alors surtout, ce qui est important dans ces vitraux, c'est la façon dont les plombs font le tour des personnages et ont une signification précise. Dans cette scène-là, par exemple, Psyché est réunie à son époux. Hein. Ils sont vraiment en communion. Elle découvre avec admiration le physique stupéfiant de l'époux. Alors qu'elle croyait trouver un monstre, c'est un merveilleux jeune homme. Et donc, ils sont réunis dans la même bulle par les plombs.
C'est un enfant dans cette représentation.
Oui, il est assez jeune. Dans le récit d'Apulée, en revanche, on le trouve plus adolescent.
Et elle, alors, ce qui est très très beau dans cet exemple, c'est que son corps, son dos, forme une courbe reprise par la ligne du plomb, justement, et qui accentue vraiment le regard. Enfin, c'est sur elle qu'immédiatement le regard se porte, alors que la seule tache de couleur,
c'est la chevelure et la flamme
de la lampe.
Alors, dans d'autres vitraux, les plombs sont aussi signifiants. De la même façon, lorsqu'elle est servie dans le palais de l'amour par les servantes invisibles, il y a un plomb qui sépare Psyché de ses servantes, parce qu'elle ne les voit pas. Voilà. Donc, c'est une façon de signifier qu'ils sont dans deux mondes différents.
Donc, l'histoire en images et par les vitrails, avec toute une signification.
Mais malheureusement, nous ignorons le nom du maître verrier qui a réalisé ces vitraux pour le connétable, d'après les planches italiennes.
Et on peut lire aussi,
dessous du vitrail, il y a un texte, donc en vers français, alors un petit peu difficile à lire, parce que c'est un français du XVIe siècle, naturellement. Et ces vers français sont la traduction littérale des vers italiens qui se trouvent sous les gravures du maître Audet. Et là, Anne de Montmorency les a fait traduire, donc au milieu du XVIe siècle, par trois poètes de cour. Donc il y a Claude Chapluis, il y a Hérouet de la Maison Neuve, qui vont prendre chacun une partie de ce long récit, hein, parce que c'est un récit qui est quand même très abondant. Et chacun des huitains, il comporte 8 vers, va être traduit pour un tiers d'entre eux par un de ses poètes. Donc nous avons d'ailleurs un portrait à Chantilly, c'est un merveilleux dessin de Clouet qu'on présente à côté du portrait d'Anne de Montmorency également par Clouet. Ça fait partie des collections de Chantilly, bien sûr, c'est un de nos trésors également. Et donc ces vers français, ils ont été placés sous les vitraux. Alors on a à Chantilly le manuscrit autographe, donc, qui présente la traduction française des vers italiens. Et on peut les lire sous les vitraux.
Alors pour l'exposition,
on les a un peu médiatisés parce que ce n'est pas toujours simple à lire. Il y a aussi une orthographe qui peut perturber le lecteur qui n'est pas habitué à cette lecture-là. Donc on a reproduit sous les vitraux, dans des sortes de grands cartels, les vitraux eux-mêmes en petits médaillons couleur. Et puis il y a une explicitation en français donc, du passage de l'histoire, également traduite en anglais et en italien, parce que l'italien est évidemment incontournable pour le mythe de Psyché, d'où nous viennent donc les sources iconographiques du mythe. Et nous avons également placé donc sous les petites images des transcriptions en français moderne donc de ces vers pour que les visiteurs puissent comprendre et suivre l'histoire. C'est assez long à raconter, donc assez long à dire en vers également. Ce sont des vers merveilleux du XVIe siècle.
Nicole Garnier, marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants. Nicole Garnier, laissons un petit peu de côté ces beaux vitraux du XVIe siècle et parlez-nous de Psyché dans les collections de peinture et de dessin du musée Condé de Chantilly, qui sont aussi présentés, qui sont là en permanence, mais que vous avez revalorisés dans le cadre de cette exposition, le mythe de Psyché.
Oui, nous avons cherché dans les collections du musée Condé, mais aussi à l'extérieur, il y en a de nombreux prêts, du musée du Louvre, du département des objets d'art, du château des Coins, de l'abbaye royale de Chaly et autres propriétés de l'Institut de France. Et nous présentons donc une sélection d'objets d'art décoratif sur le thème de Psyché. À commencer par une hydrie cinéraire grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ qui appartient aux collections de Chantilly et qui montre Eros et Psyché, donc le couple classique de la mythologie du panthéon gréco-romain. Nous avons également des œuvres capitales dans les collections de Chantilly, c'était l'occasion de les montrer, notamment le très beau dessin de Raphaël pour le banquet des dieux, donc une des scènes finales du mythe de Psyché, tiré donc du décor peint par Raphaël à la loggia de la Villa Farnésine à Rome. Donc décor qu'il avait peint pour le banquier chinois Agostino Chigi. C'est rarissime en France et c'est un très beau dessin. Donc qu'on s'en serait voulu de ne pas montrer, c'est une superbe sanguine. Nous avons également un dessin donc de Jules Romain pour une des lunettes du Palazzo Te, du palais du Te à Mantoue. Donc une commande reçue par un des principaux élèves de Raphaël pour un des grands princes, un des grands mécènes de l'Italie centrale, donc le marquis de Gonzague-Mantoue. Et dans la loggia de Psyché, donc, il y a différentes lunettes qui racontent le mythe, comme Raphaël l'a fait à la Farnésine. Jules Romain, son élève, va faire de même à Mantoue. Et donc on a un dessin préparatoire aussi pour cet ensemble. Nous avons également des dessins préparatoires de François Perrier, qui montre, entre autres, au XVIIe siècle, Psyché devant Jupiter. Donc c'est une des scènes finales, avant que Psyché ne soit admise au rang des immortels, au rang des dieux. Donc des œuvres très très importantes. Et puis pour évoquer, bien sûr, aussi le mythe de Psyché dans les collections et dans l'histoire de France, dans la littérature française.
Ah oui, alors là,
nous avons tiré de la bibliothèque du Duc d'Aumale énormément d'ouvrages, notamment des éditions anciennes.
Oui, alors par exemple, je suppose.
Oh oui, rarissime. La première édition du mythe d'Apulée en latin.
Déjà.
Lié à Rome, imprimé à Rome en 1469.
Ça va être une exposition aussi pour les bibliophiles.
Tout à fait, il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée aux livres. Nous avons aussi les éditions originales de Molière et de La Fontaine, puisque Molière comme La Fontaine au XVIIe siècle ont réalisé donc l'un un ballet, l'autre un poème sur le thème de Psyché, qui était un thème quasi universel. On a des recueils de lithographie jusqu'au XIXe siècle qui sont en rapport direct d'ailleurs avec nos vitraux. Et comme ils sont placés juste en face, le lecteur, le visiteur peut faire le va-et-vient entre les planches qui lui sont proposées et puis les vitraux qui sont juste de l'autre côté. Il y a aussi tout un secteur de l'exposition qui est donc consacré à l'histoire des vitraux des Coins à Chantilly, puisqu'ils sont à Chantilly donc depuis 1830. Et on peut y voir donc un superbe portrait par Clouet du Connétable, des gravures anciennes du château des Coins par Androuet du Cerceau au XVIe siècle pour bien situer
pour
où
bien
étaient
voilà,
ces vitraux, autant où ils étaient à Coins.
Voilà.
Et puis donc les portraits des poètes de cour qui ont travaillé comme Melun de Saint-Gelais à la traduction des vers italiens. Donc tout ceci permet de préciser un petit peu l'histoire de Psyché. Et puis l'exposition invite aussi à aller se promener dans la galerie de peinture, puisque le plafond de la galerie de peinture, qui est la salle principale du musée Condé, est orné, grâce au duc d'Aumale qui l'a commandé, d'une peinture plafonnante représentant Mercure transportant Psyché, l'amenant à Eros pour qu'elle participe au banquet des dieux. Et ça, c'est une commande contemporaine du duc d'Aumale, puisque le duc d'Aumale s'est adressé à Paul Baudry, son confrère de l'Institut, et lui a demandé d'orner le plafond de la salle voisine de la galerie de Psyché. C'était tout à fait cohérent. Alors dans l'exposition, on a une gravure du plafond et puis on invite les visiteurs à se rendre dans la salle voisine pour voir l'original. Il faut sortir un petit peu le coup, mais c'est un magnifique plafond. Sur le thème, donc, qui montre bien que Psyché a été traité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis l'exposition comporte aussi des tapisseries du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe, qui viennent de Chaly, qui viennent des Coins, qui permettent de trouver d'autres illustrations du thème de Psyché.
Il y a des visites organisées
Il y a des visites organisées, bien sûr. On en a notamment à partir du 6 juin, donc il faut aller sur le site internet du domaine de Chantilly, qui précise donc les dates de ces visites guidées, qui ont lieu en général le week-end, et qui permettent de se faire raconter l'histoire de Psyché, puis de découvrir donc les œuvres que nous avons mises en relation avec elle.
Est-ce que autour de ces œuvres, vous avez aussi organisé d'autres manifestations ?
On va organiser, oui, une signature de livre autour de la réalisation de l'ouvrage sur le mythe de Psyché, qui sort donc le 9 juin prochain, qui est un livre donc réalisé par Marie Desplechin.
Alors, c'est pas tout à fait un catalogue, qu'est-ce que c'est
là ? C'est le récit des vitraux de Psyché, d'une part, puisque le lecteur pourra trouver dans ce petit livre, réalisé aux éditions Nicolas Chaudin, l'intégralité des images des vitraux qui sont présentés de façon permanente à Chantilly, avec un petit commentaire qui permet de suivre le fil de l'histoire. Et puis, il y a une introduction qui est un essai de Marie Desplechin, donc, qui est un écrivain qu'on ne présente plus, et qui donc, qui de sa brillante plume, s'est livré à une étude sur le mythe de Psyché.
À lire alors.
À lire, à découvrir.
Quelle est l'actualité du château de Chantilly en dehors de cette belle exposition qui elle-même se situe dans un cadre national ?
Oui, avec l'exposition du Centre des musées, voilà. des monuments nationaux à Zell-Rideau, bien sûr.
Mais vous, alors, je crois que les jardins de Chantilly...
Bien sûr. Chantilly a une année très chargée puisque 2009... voit la restauration donc des jardins de Le Nôtre, jardins donc qui ont été dessinés à la demande du Grand Condé à la fin du XVIIe siècle, entre 1662 et 1700. Jardins donc qui nécessitaient une grosse restauration, que la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly est en train de mener à bien. Donc le parterre retrouve progressivement sous nos yeux son aspect du XVIIe siècle, avec surtout une remise en état du système hydraulique qui n'était plus en activité depuis pas mal de temps maintenant. Et les jets d'eau, eh bien, comme au temps de Bossuet, comme au temps du Grand Condé, recommencent à ne plus se taire ni jour ni nuit. Et on vient de remettre en eau, là, entre autres, la fontaine de la Gerbe qui n'avait pas joué depuis 250 ans. Donc la fontaine de la Gerbe qui se trouve au pied de la terrasse du connétable, qui se trouve donc à l'entrée des jardins de Le Nôtre. Donc c'est une merveilleuse restauration. C'est aussi l'occasion de faire dans le château une deuxième exposition dossier autour des jardins de Le Nôtre, avec des gravures, des plans, donc qui nous montrent la démarche de Le Nôtre, avec des archives aussi, avec une lettre d'André Le Nôtre qui écrit au Grand Condé, voilà Monseigneur, plan de votre grand escalier, donc notre grand degré qui est en cours de restauration encore actuellement. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît, écrit Le Nôtre à son maître, le Grand Condé.
Il nous plaira aussi. Nicole Garnier, que se passe-t-il en ce moment dans les grandes écuries du château de Chantilly ?
Alors beaucoup de choses, puisque les grandes écuries, qui est ce magnifique bâtiment, ce palais pour le cheval, et qui abrite notre musée vivant du cheval, mais qui est bien sûr la propriété de l'Institut de France, hein, comme vous le savez, puisque ça fait partie de la donation du duc d'Aumale, et bien ces grandes écuries font l'objet d'une restauration complète, grâce à la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, sous la houlette de notre architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gratier. Donc une grosse restauration qui va s'étaler sur plusieurs années. D'ores et déjà, la nef principale des grandes écuries est déjà accessible hein, depuis le début du mois d'avril 2009. Donc on peut, comme par le passé, assister au spectacle équestre, aux démonstrations pédagogiques dans la grande nef des grandes écuries, qui est un bâtiment fastueux. C'est là où les princes de Condé recevaient leurs hôtes de marque, recevaient l'empereur Joseph II, le roi Gustave de Suède, enfin toutes les têtes couronnées du XVIIIe siècle. On peut donc assister à des spectacles et redécouvrir les grandes écuries. Maintenant, pour revoir les salles du musée Vivant du Cheval, il faut encore patienter un peu, car il y a beaucoup de travaux de restauration en cours grâce à la Fondation.
Bon, merci beaucoup Nicole Garnier, et je crois que nos internautes auront très envie de se rendre au château de Chantilly. Thank you.